Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Touchdown Actu, nouvelle pastille audio consacrée à la draft NFL et aux différentes franchises concernées par celle-ci. Quels sont les choix prioritaires, les tendances éventuellement à scruter pour chaque franchise NFL chaque jour, donc qui nous sépare un petit peu plus de cette draft 2024 prévue du côté de Détroit. Et aujourd'hui, focus sur un rival justement de Détroit, à savoir les Green Bay Packers, 25e équipe à l'heure où on enregistre cette émission, à sélectionner à l'occasion du premier tour de la draft. Et pour en parler, à mes côtés, Nitinia Simong et des nôtres. Salut Niti.
Salut Greg, salut à tous. Hein. Bah, les Packers, hein, effectivement, une franchise qui nous a surpris l'an dernier.
Tout à fait, et qui va être un petit peu attendue au tournant. On sait que ça va très très vite en un an. L'année dernière, on était un peu sur une phase de « qu'est-ce qu'on va devenir ?» entre guillemets, avec Jordan Love. Là, manifestement, bah, voilà, on a nourri de grands espoirs, hein, forcément, avec cette campagne de play-off qui s'est un peu terminée en eau de boudin avec cette défaite du côté de San Francisco. On espère repartir vraiment sur des bons rails, surtout qu'une litis qui est intéressante, on ne va pas tous les développer aujourd'hui. On a 5 choix dans les 3 premiers tours pour Green Bay, donc c'est aussi ce qui amène une certaine confiance. On sait qu'il y a eu une free agency qui a été assez performante, avec notamment les signatures de Josh Jacobs, le running back de Las Vegas, et Xavier McKinney, le safety des Giants. Donc, comme je disais, on ne va pas forcément analyser les 5 choix des 3 premiers tours, mais les 3 premiers choix principaux de cette équipe de Green Bay, qui sont tous dans le top 60 de la draft, avec la 25e sélection, comme je disais tout à l'heure, au premier tour, mais aussi au deuxième tour, 2 sélections, le 41e et le 58e choix. Donc voilà, il y a quand même à la fois un certain luxe et une certaine pression malgré tout sur les épaules de Matt LaFleur et de Brian Gutekunst. Donc on va essayer de développer un petit peu tout ça en détail. On va commencer donc, Niti, avec ce 25e choix. On a fait aussi, on va le dire, hein, avec les possibilités qu'on avait. On rappelle qu'on essaie aussi d'équilibrer un petit peu par rapport aux différentes pastilles qui ont été faites par nos collègues. Et que bah, forcément, en fin de premier tour, voilà, on essaie de brosser aussi différents profils. Ce ne sera peut-être pas forcément une fin de premier tour. On peut très bien être dans une position d'un trade down si vraiment Green Bay veut continuer de blinder un petit peu tout ça. On est parti sur la défense et plus particulièrement sur le backfield défensif, Niti.
Ouais, on part sur un joueur qui est expérimenté en NCAA, qui a fait vraiment de très belles saisons à Minnesota, c'est Tyler Nubbin. Donc, Tyler Nubbin qui malheureusement a un process draft un peu très, on va dire, compliqué, puisque déjà il s'est blessé au genou, donc il n'a pas pu faire le NFL Combine, mais lors de son Pro Day à Minnesota, c'était pas forcément un joueur qu'on a valorisé, parce que malheureusement les chiffres, en tout cas les statistiques athlétiques, n'ont pas été satisfaisantes, en tout cas de son côté. Mais ce qu'il faut regarder, ce sont les matchs. Et les matchs du côté de Tyler Nubbin sont souvent très productif, en tout cas au sein des Golden Gophers de Minnesota, où il a été le leader défensif. Alors oui, Green Bay a peut-être signé Xavier McKinney, mais à ses côtés, à côté de Xavier McKinney, il y a Anthony Johnson Jr. C'est pour ça, l'instant. Pas grand, ouais. Il y a Benny Sapp de third. Bon, il n'y a pas vraiment grand-chose. Et donc, Tyler Nubbin pourrait peut-être devenir un joueur plus complémentaire en plus de Xavier McKinney qui lui aime plus aller dans la boîte et t'as Bean en couverture. Et vu sur l'intelligence de jeu, ça pourrait faire un sens en tout cas au sein de la défense de Jeff Hafley.
Ouais, très clairement. Et c'est vrai que t'as déjà dit beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'en effet, certes, il n'y a pas des qualités athlétiques qui ont paru dingues. Hein. Alors, sur une classe de safety qui est un peu étrange. On a du mal vraiment à sortir un cadre absolu vraiment dans cette classe-là, mais on a malgré tout affaire à des profils qui sont assez polyvalents. Et c'est en ça où je trouve que c'est aussi intéressant. Tyler Nobin peut un peu plus assumer ce rôle en couverture. Que ne peut le faire Xavier McKinney, qui en effet a un peu plus tendance à être un box safety depuis son arrivée dans la ligue, même si on attendra de voir ce que va en faire totalement Jeff Hafley. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est que malgré tout, ça peut être des denrées relativement interchangeables. Il ne semble pas que Tyler Nebbin est maladroit sur le jeu au sol. Ce n'est pas sa qualité première, mais on a vu que voilà, c'était un joueur extrêmement instinctif, appliqué. Et je trouve que c'est un joueur qui, en termes de leadership sur le terrain, peut apporter énormément à cette équipe de Green Bay qui est relativement jeune. Ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas lui de son côté, mais en tout cas, il y a quand même un profil assez complet, je trouve, pour vraiment faire en sorte qu'avec McKinney, il compose vraiment un binôme assez complémentaire et extrêmement redoutable quand il s'agira de couvrir l'intérieur du terrain. Et on sait qu'il y a pas mal de menaces, notamment en plein centre. Dans la division notamment, hein, si on pense ne serait-ce qu'à
Ouais.
TJ Hockenson ou Sam Laporta, va quand même falloir les couvrir efficacement. Donc avoir deux joueurs de ce potentiel-là avec les instincts qui sont les leurs, ça peut être quelque chose de très bénéfique très rapidement pour les Packers. On passe du coup au deuxième choix, le 41e. Du coup, on passe au deuxième tour. Et là encore, on a choisi un profil assez polyvalent, peut-être Nitti, le plus polyvalent des linebackers de ce plateau.
L'un des plus polyvalents, puisque cette année, en tout cas en 2023, pardon, en NCAA avec North Carolina State, il a fait une saison sur le pass rush qui était assez impressionnante. Pourtant, je pense qu'en NFL, ce sera un capitaine de défense, un leader défensif, parce que il a le physique pour et il a les dimensions physiques pour. Donc ce joueur, c'est Peyton Wilson, donc le linebacker de North Carolina State. Et c'est un joueur vraiment leader sur le terrain, un joueur qui a connu des blessures tout au long de sa carrière universitaire, mais surtout l'an dernier, c'était surtout un joueur qui était vraiment très proche du ballon, qui n'a pas peur en tout cas de plaquer à tout va, même si évidemment on peut avoir une certaine tendance à dire qu'il est un peu trop agressif et donc causer quelques pénalités, notamment partir avec le casque en premier au lieu de partir plus avec le corps en premier pour les plaquages. Mais en NFL, idéalement, il jouera plus donc dans une 43 en tant que strong side linebacker, donc c'est-à-dire plus voilà, linebacker côté fort, alors que du côté de North Carolina State, il jouait plutôt defensive end, voire outside linebacker.
Oui, c'est ça. C'est un système très particulier du côté d'NC State. Ça joue un peu. Ça va être une des rares équipes qui joue peut-être encore de la 33, je pense, sur les deux premiers fronts. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un système où forcément son utilisation fait que bah, d'un côté, on loue la polyvalence et puis de l'autre, on se dit bah, comment éventuellement ça peut s'implanter de la manière. Comment ça peut se traduire aussi efficacement en NFL son utilisation. Et en effet, je te rejoins, ça peut être cette espèce de rôle-là. Un petit peu, moi, à mon sens, c'est aussi pour ça que j'étais parti là-dessus. Je trouve qu'il y a des similitudes dans son utilisation à ce que pouvait apporter Devondre Campbell du côté de Green Bay. Je trouve qu'il y a quand même une densité, un volume de jeu qui peut être assez intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, vas-y, si tu
Ouais,
veux.
justement. Oui, le volume, c'est sûr. Après, Devondre Campbell, c'était vraiment un middle linebacker,
C'est pas le
vraiment
même gabarit, ça c'est oui,
pas le
on est
même
d'accord.
gabarit, un peu plus petit, Devondre Campbell, mais il apportait aussi moins, peut-être en termes de blitz, ce que Peyton Wilson pourrait probablement faire en NFL vu
Clairement.
les qualités de pass rush qu'il a. Là, je vois effectivement, il a fait aussi beaucoup de plaquages pour perte également, en plus des sacks. Donc c'est un joueur qui vraiment peut devenir un nouveau leader, qui peut émerger en tant que leader au sein de la défense de Green Bay, qui, mine de rien, en tout cas, a perdu peut-être Devondre Campbell. Il y a Quay Walker qui émerge en tant que nouveau leader défensif, nouveau capitaine. Mais après, à ses côtés, pareil, il n'y a pas grand-chose, à part peut-être Asaya McDuffie qui peut faire le travail.
C'est ça exactement. Et c'est vrai que pour reprendre un petit peu le plan que j'évoquais tout à l'heure, si tu mets un Tyler Nobbin avec un Xavier McKinney, tu te laisses la possibilité en effet de bien couvrir notamment la couverture des tight ends. Alors Peyton Wilson, à mon sens, est peut-être le linebacker qui couvre le mieux sur ce groupe-là, en tout cas dans l'aspect purement athlétique des choses, parce que c'est vrai qu'un Adrian Cooper, par exemple, est très fluide dans ses déplacements, donc c'est vrai que ça lui permet aussi d'avoir cette aptitude, on va dire, en repli. Mais Peyton Wilson est parfaitement capable de le faire. Et surtout, ce que je trouve intéressant dans ce fameux plan anti-adversaire de division, c'est Peyton Wilson, c'est aussi un joueur qui peut couvrir sur des running backs. Et quand tu vois qu'à Détroit, bah, tu as des joueurs, par exemple, comme Jahmyr Gibbs, qui sont capables d'être des vraies piles électriques, bah, si tu es capable également d'avoir ta pile électrique à toi en défense, sous réserve, bien entendu, des problèmes de blessures qu'on a évoqués et qui représentent le principal red flag, le principal point d'interrogation concernant la suite des aventures de Peyton Wilson, et sans doute ce qui le fait descendre au deuxième tour, hein, parce que très clairement, ses qualités en feraient largement un premier tour potentiel. Ça peut en tout cas être quelque chose d'assez intéressant pour Green Bay pour continuer de développer cette défense et la mettre à l'unisson par rapport à ce qu'a proposé l'attaque la saison dernière. On passe à l'attaque justement, Nitti, avec le 58e choix. Donc on est reparti côté offensif et notamment du côté de la ligne.
Ouais, la ligne offensive qui, malgré tout, a fait tout de même une bonne saison, hein, l'an dernier. Alors, malheureusement, la nouvelle blessure de David Bakary qui aujourd'hui, malheureusement, alors je sais pas s'il a pris sa retraite, hein, d'ailleurs, hein, j'ai pas,
Je ne l'ai pas vu passer,
je,
mais
voilà,
il doit
j'ai
peut-être
pas vu
arriver.
passer, mais voilà, je pense pas. Mais sur la ligne offensive, on a perdu quelques joueurs, John Runyan notamment, parti chez les Giants. Du côté du poste de tackle gauche, eh ben, on n'a pas grand monde. On a Rachid Walker, l'ancien Penn State, hein, qui a commencé un peu à pointer le bout de son nez. Et puis tu as Zach Tom, hein, au poste de tackle droit, qui commence tout de même à montrer de très belles choses. Donc nous, on a pensé à un joueur un peu massif. Du côté de Houston, des Cougars de Houston, c'est Patrick Paul, qui pour moi a vraiment progressé en 2023. Et après, là où j'ai vraiment un petit défaut, c'est vraiment la mobilité plus latérale, parce que sinon, quand on regarde le bonhomme Greg, et je pense que tu vas pas me dire le contraire, c'est un monstre physique, c'est vraiment un monstre physique qui a un bon point d'ancrage, qui peut être. Je pense en NFL, je pense qu'il va être meilleur pour les jeux de course que pour la protection de passe. En tout cas, c'est là où il doit s'améliorer parce que, voilà, la coordination entre le premier pas qu'il a et l'agilité qu'il peut avoir s'est améliorée en 2023, mais ça reste toujours un peu brouillon, on va dire, un peu irrégulier. Et puis, le placement des mains initial, on va dire, lorsqu'il veut bloquer le pass rusher est très aléatoire. Donc, il faudra le développer, il faudra être patient avec lui. Mais on a déjà vu des tackles voilà, qui n'arrivent pas à passer le cap. Patrick Paul peut y arriver, mais il va falloir avoir de la patience.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça fait partie malheureusement de ces joueurs qui, dans ces nouveaux joueurs qui ont une telle envergure physique que bah des fois faut aussi être capable d'utiliser à bon escient justement cette longueur de bras, ce sens du timing en fonction justement du pass rusher que tu as en face de toi. Et malheureusement du côté de Patrick Paul, c'est pas encore très très bien acquis. Même si tu l'as dit, c'est quelque chose qui est malgré tout en développement. Donc c'est un projet. Un peu plus que les deux premiers joueurs qu'on a cités du côté de Green Bay. Et on se dit qu'on peut avoir un petit peu ce luxe-là en partant du principe, en effet, que sur le papier, Walker et Tom sont titulaires et que potentiellement Patrick Paul, avec à minima une année d'expérience et l'entourage du coaching staff, peut se perfectionner un petit peu là-dessus. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a quand même des qualités athlétiques et physiques assez indéniables. Maintenant, c'est vraiment un joueur avant tout à polir, mais qui a un plus gros potentiel, par exemple, son frère, hein, Chris, qui évolue actuellement du côté de Washington. Ce n'est pas vraiment le même projet. C'est sûr qu'il n'a pas évolué dans le même type d'attaque.
Ah non,
Ou à Houston,
clairement.
ça jouait vraiment très, très aérien, alors que du côté de Green Bay, on peut quand même s'attendre, malgré tout, à ce que ça court quand même beaucoup, même s'il y a, on a vu qu'il y avait quand même une belle classe de receveurs et qu'il y avait quand même possibilité d'équilibrer beaucoup plus le jeu offensif de la part de Matt LaFleur. Patrick Paul, tu le disais, il y a quand même cette possibilité-là d'être assez intéressant sur le jeu au sol, de par justement sa capacité à être dominant, à avoir ses mains agressives dès le premier contact en phase active. Voilà. Sur le passe-pro, il va falloir se développer un petit peu plus, va falloir en tout cas gommer ces imperfections qu'on a pu voir ici et là. Mais globalement, c'est quand même un projet assez excitant pour Green Bay, pour un joueur qui serait potentiellement récupéré en fin de deuxième tour.
Juste pour terminer, effectivement, sur Patrick Paul et même sur l'attaque de Green Bay, comme tu l'as dit, effectivement, il y a des receveurs, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur, où tu as Luke Musgrave, qui a peut-être loupé quelques yards, mais qui a montré de bonnes choses en fin de saison. Et puis pour Jordan Love, je pense que, voilà, avoir un Patrick Paul n'est pas négligeable, surtout que la ligne offensive de Green Bay n'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, sur la ligne intérieure, on a tout de même Elgton Jenkins, sur lequel Patrick Paul pourra peut-être apprendre, peut-être pour jouer garde à l'avenir. Parce que si tackle, si en tout cas en poste de tackle, ça ne marche pas.
Oui, non, clairement, clairement, c'est pas forcément quelque chose de rédhibitoire. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les trois choix des Green Bay Packers. Donc on vous les rappelle, Tyler Nobbin, safety de Minnesota, Peyton Wilson, linebacker d'NC State et Patrick Paul, lineman offensif de Houston. On se retrouve demain, mon cher Nitti, pour parler notamment d'une autre équipe qui joue sur une baie, à savoir Tampa, les Buccaneers, donc autre équipe qualifiée en playoff. Donc on se retrouve demain. D'ici là, passez une très bonne journée à l'écoute de Touchdown Actu. Salut à tous.